Chapitre 103. La preuve établie par Dieu. La preuve établie par Dieu ne pourra jamais être comparée aux preuves qui sont produites par l'un quelconque des peuples et des tribus de la terre. Et sans l'ombre d'un doute, aucune preuve n'est établie par Dieu, si ce n'est par l'intermédiaire de celui qui est désigné comme son témoignage suprême. De plus, la preuve des versets révélés démontre à elle seule la totale impuissance de toute chose créée sur terre, car c'est une preuve qui émane de Dieu et se perpétuera jusqu'au jour de la résurrection. Et si quelqu'un venait à méditer sur l'apparition de cet arbre, il témoignerait assurément de l'éminence de la cause de Dieu. Car si un homme dont l'âge ne dépasse pas 24 ans et qui ignore les sciences dans lesquelles sont versés tous ses semblables, récite des versets sans y penser auparavant et sans aucune hésitation, écrit un millier de versets de prière en l'espace de 5 heures sans même poser la plume, et produit des commentaires et des traités érudits sur des thèmes aussi élevés que la vraie compréhension de Dieu et l'unicité de son être, et cela d'une manière qui, comme le confessent docteurs et philosophes, surpasse leur pouvoir de compréhension, alors il ne fait aucun doute que tout ce qui a été manifesté est divinement inspiré. Bien qu'ils aient étudié assidûment toute leur vie durant, que de peine prennent ces théologiens pour écrire une seule ligne en arabe. Et pourtant, le résultat de tant d'efforts n'est que des paroles indignes d'être mentionnées. Toutes ces choses sont une preuve pour les hommes. Autrement, la religion de Dieu est trop puissante et glorieuse pour être comprise par quiconque que par elle-même, ou plutôt, c'est par elle que tout le reste est compris. Chapitre 104. Reconnaître celui que Dieu rendra manifeste. Loué soit Dieu, qui nous a rendus capables de connaître celui que Dieu rendra manifeste au jour de la résurrection, afin que nous puissions tirer profit du fruit de notre existence et ne pas être empêchés d'atteindre la présence de Dieu. Car c'est là, en vérité, l'objet de notre création et le seul but qui motive chacun des actes vertueux que nous puissions accomplir. Telle est la munificence que Dieu nous a accordée. Il est, en vérité, l'infiniment bon, le miséricordieux. Sache que tu y parviendras si tu crois avec une foi inébranlable. Toutefois, comme tu ne peux atteindre l'état de foi inébranlable, en raison des voiles de tes désirs égoïstes, tu t'attarderas donc dans le feu sans même en être conscient. Au jour de sa manifestation, à moins que tu ne croies vraiment en lui, rien ne peut te sauver du feu, même si tu accomplis tous les actes vertueux du monde. Si tu embrasses la vérité, tout ce qui est bon et agréable sera consigné pour toi dans le livre de Dieu, et en conséquence, tu te réjouiras dans le plus haut paradis jusqu'à la prochaine résurrection. Réfléchissez avec toute l'attention requise, car le chemin est très étroit, même s'il est plus spacieux que les cieux et la terre et tout ce qui se trouve entre les deux. Si, par exemple, tous ceux qui attendaient l'accomplissement de la promesse de Jésus avaient été assurés de la manifestation de Mohammed, l'apôtre de Dieu, personne ne se serait détourné des paroles de Jésus. De même, dans la révélation du point du bâillant, si tous les hommes étaient certains que c'est ce même midi promis, celui qui est guidé, qu'annonça l'apôtre de Dieu, pas un seul des croyants dans le Coran ne se détournerait des paroles de l'apôtre de Dieu. Et ainsi, dans la révélation de celui que Dieu rendra manifeste, observez la même chose. Car si chacun était assuré qu'il est bien celui que Dieu rendra manifeste, celui qui a prédit le point du bâillant, nul ne s'écarterait de lui. Chapitre 105. Le mystère de sa propre essence divine. Au nom de Dieu, le très exalté, le très saint, toute louange et toute gloire soit sur la cour sacrée et glorieuse du souverain Seigneur, qui, depuis toujours, et demeurait dans le mystère de sa propre essence divine, et continuera d'y demeurer à jamais, qui, de temps immémorial, est resté dans sa transcendante éternité et continuera à y rester indéfiniment, exalté au-dessus de la portée et de la connaissance de tous les êtres créés. Le signe de son incomparable révélation, telle qu'elle a été créée par lui et dont il a imprégné les réalités de tous les êtres, n'est rien d'autre que leur impuissance à le connaître. La lumière qu'il a répandue sur toute chose n'est rien d'autre que la splendeur de son être même. Il a lui-même été, de tout temps, immensément exalté au-dessus de toute association avec ses créatures. Il a façonné la création tout entière de telle sorte que tous les êtres puissent, en vertu de leur pouvoir inné, porter témoignage devant Dieu au jour de la résurrection qu'il n'a ni père ni égal et qu'il est sanctifié de toute ressemblance, similitude ou comparaison. Il a été et sera à jamais unique et incomparable dans la gloire transcendante de son être divin. Et il a toujours été indescriptiblement puissant dans la sublimité de sa souveraine suzeraineté. Nul n'a jamais été capable de le reconnaître convenablement. Et aucun homme ne réussira, à aucun moment, à le comprendre comme il convient réellement. Car toute réalité à laquelle peut s'appliquer le terme d'être a été créée par la souveraine volonté du Tout-Puissant qui a répandu sur elle l'éclat de son être propre, surgissant de son rang le plus auguste. Il a en outre déposé, à l'intérieur des réalités de toutes choses créées, l'emblème de sa reconnaissance, afin que chacun sache, en toute certitude, qu'il est le commencement et la fin, le manifeste et le caché, celui qui crée et celui qui soutient, l'omnipotent et l'omniscient, celui qui entend et perçoit toutes choses, celui dont le pouvoir est invincible et qui demeure suprême en sa propre identité, celui qui vivifie et qui donne la mort, le Tout-Puissant, l'Inaccessible, le Très-Exalté, le Très-Haut. Chaque révélation de son essence divine prouve la sublimité de sa gloire, l'élévation de sa sainteté, l'inaccessible sommet de son unicité, l'exaltation de sa majesté et de son pouvoir. Son commencement n'a eu d'autre commencement que le fait d'être le tout premier, et sa fin ne connaît d'autre fin que le fait d'être le tout dernier. Chapitre 106. Cet arbre divin révélera à jamais les Écritures. La révélation de la réalité divine a été de tout temps identique à sa dissimulation et celle-ci identique à sa révélation. Ce qui est sous-entendu par révélation de Dieu est l'arbre de vérité divine qui ne révèle rien d'autre que lui, et c'est cet arbre divin qui a élevé et élèvera des messagers qui a révélé et révélera à jamais les Écritures. D'éternité en éternité, cet arbre de vérité divine a servi et servira toujours de trône pour la révélation et la dissimulation de Dieu parmi ses créatures, et, en chaque âge, il est rendu manifeste par l'intermédiaire de quiconque lui plaît. À l'époque de la révélation du Coran, il affirma son pouvoir transcendant par l'avènement de Muhammad, et à l'occasion de la révélation du Bayan, il démontra sa puissance souveraine par l'apparition du point du Bayan, et quand apparaîtra celui que Dieu rendra manifeste, ce sera par lui qu'il revendiquera la vérité de sa foi comme il lui plaira, avec qui il lui plaira et pour réaliser ce qu'il lui plaira. Il est avec toute chose, et pourtant rien n'est avec lui. Il n'est pas à l'intérieur d'une chose, ni au-dessus, ni à côté. Toute référence à son placement sur le trône implique que l'interprète de sa révélation est établi sur le siège de l'autorité transcendante. Il a éternellement existé, et il continuera à jamais à exister. Il a été et il restera éternellement impénétrable aux yeux des hommes. puisque tout ce qui existe en dehors de lui a été et sera indéfiniment créé par la puissance de son commandement. Il est exalté au-dessus de toute mention ou louange, et sanctifié au-delà de toute parole d'approbation et de toute comparaison. Aucune chose créée ne le comprend, alors que lui, en vérité, comprend toute chose. Même quand il est dit « aucune chose créée ne le comprend », cette assertion fait référence au miroir de sa révélation, c'est-à-dire à celui que Dieu rendra manifeste. En vérité, il est trop élevé et trop exalté pour que qui que ce soit fasse allusion à lui. Partie 4. Dalaï Lesabi, les sept preuves. Chapitre 107. Extrait du Dalaï Lesabi, les sept preuves. Tu as posé des questions concernant les fondements de la religion et ses commandements. Sache que ce qui vient en premier, le plus important dans la religion, est la connaissance de Dieu. Elle atteint sa perfection dans la reconnaissance de son unicité divine, qui, à son tour, se réalise en proclamant que son sanctuaire saint et exalté, le siège de sa transcendante majesté, est sanctifié de tout attribut. Et sache que, dans ce monde de l'existence, la connaissance de Dieu ne pourra jamais être atteinte si ce n'est par la connaissance de celui qui est l'aurore de la réalité divine. Dieu miséricordieux, dans les régions de l'islam, sept puissants souverains dirigent actuellement le monde. Aucun d'eux n'a été informé de sa manifestation, celle du Bab. Et s'ils en ont été informés, aucun n'a cru en lui. Qui sait, ils peuvent quitter ce bas monde plein de désirs et sans avoir réalisé que la chose qu'ils attendaient était survenue. C'est ce qui advint aux monarques qui s'accrochaient à l'Évangile. Ils attendaient la venue du prophète de Dieu, Mohammed, et quand il apparut, ils ne le reconnurent pas. Vois quelle somme énorme dépensent ces souverains sans avoir la moindre idée de nommer un officier chargé de les informer, dans leur propre royaume, de la manifestation de Dieu. Ils auraient ainsi rempli le but pour lequel ils ont été créés. Or, tout ce qu'ils ont désiré et désirent encore, c'est de laisser derrière eux des traces de leur nom. Réfléchis de même à la dispensation de l'apôtre de Dieu, qui aura 1270 ans jusqu'à l'aube de la manifestation du Bayan. Il ordonna à chacun d'attendre l'avènement du Caïm promis. Tous les actes qui, dans la dispensation islamique, ont commencé avec Mohammed, devraient trouver leur consommation avec l'apparition du Caïm. Dieu l'a rendu manifeste, l'a investi de la preuve dont fut investi l'apôtre de Dieu, afin qu'aucun adepte du Coran ne puisse avoir de doute sur la validité de sa cause, car il est établi dans le Coran que seul Dieu est capable de révéler des versets. Durant la période de 1270 années, aucun des disciples du Coran n'observa jamais l'apparition d'une personne munie de preuves concluantes. Maintenant, le Seigneur éternel a rendu manifeste et investi d'un suprême témoignage ce promis tant attendu dans un lieu que nul ne pouvait concevoir et en la personne d'un jeune homme dont le savoir était considéré comme de peu d'importance. Il n'a pas plus de 25 ans, et cependant, sa gloire est telle qu'aucun des érudits parmi les peuples de l'islam ne peut rivaliser avec lui, car la gloire de l'homme réside dans son savoir. Considère les savants qui sont honorés à cause de leur habileté à comprendre les écrits saints. Dieu les a exaltés à un tel point qu'en leur faisant référence, il dit « Personne n'en connaît la signification ?» à l'exception de Dieu et de ceux qui sont bien versés dans la science, voir Coran 3:7. Comme il est étrange alors que ce jeune homme de 25 ans, sans aucun soutien, soit désigné pour révéler ces versets d'une manière si étonnante. Si les religieux musulmans peuvent s'enorgueillir de comprendre le sens des écrits saints, sa gloire réside dans la révélation des écrits afin qu'aucun d'eux ne puisse hésiter à croire en ses paroles. Si grands sont la puissance et le pouvoir céleste que Dieu a révélé en lui, que si telle était sa volonté et qu'aucun arrêt n'intervenait, il pourrait révéler en l'espace de 5 jours et 5 nuits l'équivalent du Coran qui a été révélé en 23 ans. Pensez-y et réfléchis. Quelqu'un de semblable à lui est-il jamais apparu dans le passé, ou bien cette caractéristique lui est-elle strictement réservée? Considère les multiples faveurs consenties par le promis et les effusions de sa générosité qui ont pénétré l'assemblée des disciples de l'islam pour leur permettre de parvenir au salut. Observe, en vérité, comment celui qui représente l'origine de la création, celui qui est l'interprète du verset « En vérité, je suis Dieu », s'identifia lui-même comme la porte, Bab. À l'occasion de l'avènement du Caïm promis, un descendant de Muhammad, et comment, dans son premier livre, il enjoignit l'obéissance aux lois du Coran, afin que les gens ne soient pas perturbés à cause d'un nouveau livre et d'une nouvelle révélation, et qu'ils puissent considérer sa foi comme semblable à la leur, et qu'ainsi, ils ne se détournent pas de la vérité pour ignorer ce pourquoi ils avaient été appelés à l'existence. Laisse-moi établir pour toi quelques preuves rationnelles. Si quelqu'un désire embrasser la foi de l'islam aujourd'hui, le témoignage de Dieu s'avérerait-il pour lui concluant? Si tu soutiens que non, alors comment se fait-il que Dieu le châtiera après la mort et que, alors qu'il vit, le verdict d'incroyant est prononcé contre lui? Si tu affirmes que le témoignage est concluant, comment le prouveras-tu? Si ton assertion est fondée sur un oui-dire, alors de simples paroles sont inacceptables en tant que témoignage probant. Mais si tu considérais le Coran comme le témoignage, ce serait là une preuve évidente et de poids. Considère maintenant la révélation du Bayan. Si les disciples du Coran avaient appliqué des preuves semblables à celles qu'ils avancent pour les personnes qui ne croient pas dans l'islam, pas une seule âme ne serait demeurée privée de la vérité, et au jour de la résurrection, chacun serait parvenu au salut. Si un chrétien alléguait « Comment puis-je prendre le Coran pour témoignage alors que je suis incapable de le comprendre ?» un tel argument serait inacceptable. De même, le peuple du Coran observe dédaigneusement. Nous sommes incapables de saisir l'éloquence des versets du Bayan. Comment pouvons-nous le considérer comme un témoignage? À quiconque tient un tel langage, dit « Ô ignorant, sur quelle preuve as-tu embrassé la religion de l'islam? Est-ce le prophète sur lequel jamais tes yeux ne se sont posés? Sont-ce les miracles dont tu n'as jamais été témoin? Si tu as accepté l'islam sans le vouloir, pourquoi l'as-tu fait? Mais si tu as embrassé la foi par la reconnaissance du Coran en tant que témoignage, parce que tu as entendu les érudits et les fidèles exprimer leur impuissance en face du livre, ou si, après avoir écouté les versets divins et à cause de ton amour spontané pour la vraie parole de Dieu, tu as répondu dans un esprit d'extrême humilité, un esprit qui est l'un des signes les plus puissants de véritable amour et de compréhension, alors de telles preuves ont toujours été et seront à jamais considérées comme irréfutables. Reconnaître celui qui est le messager de la vérité divine n'est rien d'autre que reconnaître Dieu, et l'aimer n'est rien d'autre qu'aimer Dieu. Cependant, je jure par la sublime essence de Dieu, exalté et glorifié soit-il, que je n'ai pas souhaité que mon identité soit connue des hommes, et que j'ai donné des instructions afin que mon nom reste caché, car j'étais pleinement conscient de l'incapacité de ce peuple qui n'est autre que ceux qui, se référant à une personne telle que l'apôtre de Dieu, incomparable comme il l'a toujours été, observèrent « Il est certainement possédé ». Voir Coran 68-51. Et s'ils prétendent maintenant être autres que ces gens-là, leurs actes témoignent du caractère mensonger de leurs assertions. Ce que Dieu atteste n'est autre que ce qu'atteste son suprême témoignage. Si tous les peuples de la terre affirmaient une chose et qu'il en affirmait une autre, son témoignage serait considéré comme le témoignage de Dieu, alors que tout autre que lui a été et sera toujours comparable au néant, car c'est par son pouvoir qu'une chose existe. Considère dans quelle mesure ces gens adhèrent au sujet concernant la foi. Quand ils gèrent leurs propres affaires, ils se contentent du témoignage de deux justes témoins. Et pourtant, en dépit du témoignage de tant d'hommes intègres, ils hésitent à croire en celui qui est le messager de la vérité divine. Les preuves que les hommes demandaient à l'apôtre de Dieu, guidés par leurs vaines imaginations, ont été en grande partie rejetées dans le Coran, ainsi qu'il a été révélé dans la sourate des enfants d'Israël, sourate 17. Et ils disent « En aucun cas nous ne croirons en toi avant que tu ne fasses jaillir pour nous de la terre une source et que tu n'aies un jardin de palmiers et de vignes et que tu ne fasses couler en leur milieu des rivières en abondance ou que tu ne fasses tomber sur nous le ciel en morceaux comme tu l'as annoncé ou que tu n'amènes Dieu et ses anges à se porter garant de toi ou que tu n'aies une maison en or ou, si tu montes au ciel, nous ne croirons en ton ascension que si tu nous envoies un livre que nous puissions lire. Dis, loué soit mon Seigneur, suis-je plus qu'un homme, un apôtre ? Maintenant, sois honnête, les Arabes ont prononcé de telles paroles, et à présent, poussé par tes désirs, tu demandes encore d'autres choses ? Quelle différence y a-t-il entre toi et eux ? Si tu réfléchis un moment, il te sera évident qu'il incombe à un humble serviteur d'acquiescer à toutes les preuves que Dieu a désignées, et non de suivre ses vaines imaginations. Si les désirs des hommes étaient satisfaits, il ne resterait pas sur terre un seul incroyant, car une fois que l'apôtre de Dieu eut réalisé leurs désirs, ils auraient tous, sans hésiter, embrassé sa foi. Que Dieu te secoure, si tu cherchais une quelconque preuve selon tes désirs égoïstes, car il te sied plutôt de soutenir l'infaillible preuve que Dieu a désignée. L'objet de ta croyance en Dieu n'est que d'assurer son bon plaisir. Comment donc cherches-tu pour preuve de ta foi une chose qui a été et qui est contraire à son bon plaisir? Détache-toi de tout sauf de Dieu. Enrichis-toi en Dieu en te passant de tout autre que lui et récite cette prière. Dis, Dieu suffit à toute chose, au-dessus de toute chose, et rien dans les cieux, ni sur la terre, ni dans ce qui se trouve entre les deux, sauf Dieu, ton Seigneur, ne suffit. En vérité, il est en lui-même celui qui sait, celui qui soutient, l'Omnipotent. Ne considère pas le pouvoir de Dieu qui suffit à tout comme une vaine chimère. C'est cette foi réelle que tu chéris par la manifestation de Dieu en chaque dispensation. C'est une telle foi qui suffit au-delà de tout ce qui existe sur la terre, alors qu'aucune chose créée sur terre autre que la foi ne te suffirait. Si tu n'es pas un croyant, l'arbre de vérité divine te condamnera à l'extinction. Si tu es un croyant, ta foi te suffira par-delà tout ce qui existe sur terre, même si tu ne possèdes rien. Il est rapporté dans une tradition que de toute l'assemblée des chrétiens, pas plus de 70 personnes embrassèrent la foi de l'apôtre de Dieu. La faute en est à leurs érudits, car s'ils avaient cru, ils auraient été suivis par la masse de leurs compatriotes. Considère ensuite ce qui est advenu. Les érudits de la chrétienté sont tenus pour instruits parce qu'ils préservent les enseignements du Christ et voient pourtant comme ils ont été eux-mêmes la cause du refus des hommes d'accepter la foi et d'atteindre le salut. Désires-tu toujours marcher dans leurs traces? Les disciples de Jésus s'en remirent à leurs ecclésiastiques pour être sauvés au jour de la résurrection, et en conséquence de cette obéissance, ils entrèrent finalement dans le feu, et au jour de l'apparition de l'apôtre de Dieu, ils se refusèrent à reconnaître sa personne exaltée. Désires-tu suivre de tels prêtres? Non, par Dieu, ne soit ni un prêtre sans discernement, ni un disciple aveugle, car tous deux périront au jour de la résurrection. Il t'appartient plutôt d'être un prêtre avisé ou de marcher avec clairvoyance sur le chemin de Dieu en obéissant à un vrai maître de la religion. En chaque nation, tu vois d'innombrables dirigeants spirituels qui sont dépourvus de véritable discernement, et dans chaque peuple, tu rencontres des multitudes d'adhérents qui sont démunis de cette même caractéristique. Réfléchis un moment en ton cœur. Aie pitié de toi-même et ne détourne pas ton attention des preuves et évidences. Toutefois, ne cherche pas ces preuves et ces évidences en suivant tes vaines imaginations, mais fonde plutôt tes preuves sur ce que Dieu a désigné. De plus, sache que le fait d'être un érudit ou d'être disciple n'est pas en soi une source de gloire. Si tu es un érudit, ta connaissance devient un honneur, et si tu es un disciple, ton adhésion au commandement devient un honneur, mais seulement si elle se conforme au bon plaisir de Dieu. Et prends bien garde à ne pas prendre le bon plaisir de Dieu pour une vaine chimère. Il est semblable au bon plaisir de son messager. Considère les disciples de Jésus. Ils cherchaient ardemment le bon plaisir de Dieu, et cependant, aucun d'entre eux n'a atteint le bon plaisir de son apôtre, qui est identique au bon plaisir de Dieu, à l'exception de ceux qui ont embrassé sa foi. Ta lettre a été lue attentivement. Si la vérité de cette révélation devait être pleinement démontrée avec des preuves élaborées, tous les parchemins qui existent dans les cieux et sur la terre ne suffiraient pas à les contenir. Cependant, voici la substance et l'essence de ce sujet. Il est indubitable que Dieu a, de toute éternité, été investi de la souveraineté indépendante de son être exalté, et qu'il restera à jamais inaccessible dans la transcendante majesté de son essence sacrée. Aucune créature ne l'a jamais reconnu comme il sied à sa reconnaissance, et aucun être créé ne l'a jamais loué comme il convient à sa louange. Il est exalté au-dessus de tout nom et sanctifié de toute comparaison. Par lui sont connues toutes choses, alors que sa réalité est trop élevée pour être connue par quiconque autre que lui. Le processus de sa création n'a pas eu de commencement et ne peut avoir de fin. Autrement, elle nécessiterait la cessation de sa grâce céleste. Dieu a élevé des prophètes et révélé des livres aussi nombreux que les créatures du monde, et il continuera à le faire jusqu'à la fin des temps. Si tu navigues sur la mer des noms de Dieu, qui sont reflétés en toutes choses, sache qu'il est ni exalté et sanctifié d'être connu par l'intermédiaire de ses créatures, ni d'être décrit par ses serviteurs. Tout ce que tu vois a été appelé à l'existence par l'opération de sa volonté. Comment une telle chose créée peut-elle donc révéler son essentielle unicité? L'existence de Dieu témoigne en elle-même qu'elle a été façonnée par Dieu. Telle est la preuve de la sagesse accomplie, selon ceux qui naviguent sur l'océan de la vérité divine. Si cependant tu navigues sur la mer de la création, sache que le souvenir premier qui est la volonté première de Dieu peut être comparé au soleil. Dieu l'a créé par la puissance de son pouvoir. Et depuis le commencement qui n'a pas de commencement, il l'a rendu manifeste en chaque dispensation par l'irrésistible pouvoir de son commandement. Et il continuera jusqu'à la fin qui ne connaît pas de fin, à le manifester selon le bon plaisir de son invincible dessein. Et sache qu'en vérité, il ressemble au soleil. Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais qu'un seul soleil, même s'il continuait à se lever jusqu'à la fin qui n'a pas de fin, et même s'il continuait à se coucher indéfiniment, il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais qu'un seul soleil. C'est cette volonté première qui apparaît resplendissante en chaque prophète et parle dans chaque livre révélé. Elle ne connaît pas de commencement, puisque le premier en tire sa qualité de premier, pas plus qu'elle ne connaît de fin, car le dernier lui doit sa qualité de dernier. À l'époque de la première manifestation, la volonté première apparut en Adam, au jour de Noé, elle fut en Noé, au jour d'Abraham, en celui-ci, et de même au jour de Moïse, au jour de Jésus, au jour de Mohammed, l'apôtre de Dieu. Au jour du point du bâillant, au jour de celui que Dieu rendra manifeste, et au jour de celui qui apparaîtra après celui que Dieu rendra manifeste. D'où le sens caché des paroles proférées par l'apôtre de Dieu, « Je suis tous les prophètes », puisque ce qui resplendit en chacun d'eux a été et demeurera à jamais le seul et même soleil. Partie 5. Kitab et Asma, le livre des noms. Chapitre 108. Nous vous avons créé d'un seul arbre. Ô vous qui êtes investis du bâillant, ne vous accusez pas les uns les autres avant que l'astre du jour de l'ancienne éternité brille au-dessus de l'horizon de sa sublimité. Nous vous avons créé d'un seul arbre et avons fait de vous les feuilles et les fruits de ce même arbre, afin que par bonheur vous puissiez devenir une source de réconfort les uns pour les autres. Ne regardez autrui que comme vous vous regardez vous-même, afin qu'aucun sentiment d'aversion ne puisse prévaloir parmi vous et ne vous coupe de celui que Dieu rendra manifeste au jour de la résurrection. Il vous incombe de former un seul peuple indivisible. Ainsi devriez-vous retourner vers celui que Dieu rendra manifeste. Ceux qui se sont privés de cette résurrection à cause de leur haine réciproque, ou parce qu'ils ont considéré qu'ils étaient dans la vérité et les autres dans l'erreur, furent châtiés au jour de la résurrection pour de telles haines manifestées durant leur nuit. Ainsi se sont-ils privés de la contemplation du visage de Dieu, et ceci pour nulle autre raison que leur dénonciation mutuelle. Ô vous qui êtes investis du bâillant, vous devez accomplir des actes qui plaisent à Dieu, votre Seigneur, gagnant ainsi le bon plaisir de celui que Dieu rendra manifeste. Ne transformez pas votre religion en un moyen d'obtenir des profits matériels, passant votre vie en vanité et héritant ainsi, au jour de la résurrection, de ce qui déplairait à celui que Dieu rendra manifeste, alors que vous pensez faire ce qui est correct. Si cependant vous pratiquez la piété dans votre foi, Dieu vous nourrira sûrement des trésors de sa grâce céleste. Soyez sincères dans votre allégeance envers celui que Dieu rendra manifeste pour l'amour de Dieu, votre Seigneur, afin que peut-être vous puissiez, au jour de la résurrection, être rachetés par votre dévotion à sa foi. Prenez garde de ne pas vous laisser mutuellement envelopper dans des voiles à cause des conflits qui peuvent survenir entre vous durant votre nuit, par suite des problèmes que vous rencontrez ou en considération de sujets tels que votre élévation ou votre abaissement, votre proximité ou votre éloignement. Ainsi, nous vous avons fermement exhorté, une exhortation en vérité convenante, afin que par bonheur, vous puissiez vous y accrocher tenacement et par là atteindre le salut au jour de la résurrection. Le temps approche où vous serez en paix avec vous-même dans vos foyers, et soudain sera apparu celui que Dieu rendra manifeste, et Dieu désire que vous retourniez à lui de même qu'il vous a appelé à l'existence par l'intermédiaire du premier point. Cependant, vous chercherez tous à être guidés tout en continuant à suivre les impulsions de vos propres désirs. Certains d'entre vous sont remplis d'orgueil à cause de leur religion, d'autres à cause de leur savoir. Tous, vous vous accrocherez à quelque partie du bâillant comme à un moyen de vous glorifier vous-même. Chapitre 109. Celui que Dieu rendra manifeste est le premier voile de Dieu. Dieu est sanctifié par ses serviteurs, et il n'a jamais existé de relation directe entre lui et toute chose créée, alors que vous vous êtes tous levés sur son ordre. Il est en vérité votre Seigneur et votre Dieu, votre Maître et votre Roi. Il ordonne vos mouvements sur son commandement tout le jour et durant la nuit. Dites, celui que Dieu rendra manifeste est en vérité le premier voile de Dieu. Au-dessus de ce voile, vous ne pouvez trouver rien d'autre que Dieu, alors qu'en dessous, vous pouvez discerner toute chose émanant de Dieu. Il est l'invisible, l'inaccessible, le très exalté, le bien-aimé. Si vous cherchez Dieu, il vous sied de chercher celui que Dieu rendra manifeste. Et si vous chérissez le désir d'habiter dans l'arche des noms, vous vous distinguerez comme les guides menant vers celui que Dieu rendra manifeste, si seulement vous croyiez en lui. En vérité, faites de votre cœur l'aurore de ces noms exaltés, comme il est mentionné dans le livre, et vous serez, tels des miroirs placés devant le soleil, capables de recevoir la lumière. Chapitre 110. La vérité sera fermement établie. Si une personne s'attribuait une cause et produisait ses preuves, alors ceux qui essaient de la répudier doivent produire des preuves semblables aux siennes. S'ils y parviennent, ses paroles s'avéreront vaines. Et ils auront réussi. Autrement, ses paroles ne cesseront pas et les preuves qu'il a avancées ne deviendront pas vaines. Je vous le demande, ô vous qui êtes investis du bâillant. Si vous êtes trop heureux d'affirmer votre ascendance, ne faites face à aucune âme à moins d'avancer des preuves semblables à celles qu'elle a fournies. Car la vérité sera fermement établie alors que tout le reste est sûr de périr. Combien nombreux furent ceux qui se disputèrent avec Mohammed, l'apôtre de Dieu, et furent en fin de compte réduits à néant, puisqu'ils furent incapables de produire des preuves semblables à la preuve que Dieu lui avait envoyée. S'ils avaient été modestes et décontenancés, et s'ils avaient compris la nature des preuves dont il était investi, ils ne l'auraient jamais défié. Mais ils se considéraient comme des champions de leur propre religion. C'est pourquoi Dieu s'empara d'eux selon leur mérite et défendit la vérité par le pouvoir de la vérité. C'est ce que vous percevez clairement aujourd'hui dans la révélation de Mohammed. Quel est parmi vous l'homme qui peut défier les trônes exaltés de la réalité en chaque dispensation, alors que toute existence en est entièrement dépendante? En vérité, Dieu a anéanti tous ceux qui se sont opposés à eux depuis le commencement qui n'a pas de commencement jusqu'à ce jour. Et il a démontré la vérité de manière concluante par le pouvoir de la vérité. Il est réellement le Tout-Puissant, l'Omnipotent. Chapitre 111. Ne pas vous couper de celui qui est la source de tous les messagers. Ô vous qui êtes investis du bâillant, soyez attentifs au jour de la résurrection, car ce jour-là, vous croirez fermement dans le vahid du bâillant, bien que ceci, de même que votre religion passée, qui s'est avérée sans effet, ne puisse en rien vous profiter, à moins que vous n'embrassiez la cause de celui que Dieu rendra manifeste, et ne croyiez en ce qu'il ordonne. Prenez donc bien garde de ne pas vous couper de celui qui est la source de tous les messagers et de toutes les Écritures, alors que vous vous attachez à certaines parties des enseignements qui ont émané de ces sources. Chapitre 112. Ceux qui ouvrent leur cœur à cette révélation. Considérez comment, au jour de l'apparition de chaque révélation, ceux qui ouvrent leur cœur à l'auteur de cette révélation reconnaissent la vérité, alors que les cœurs de ceux qui omettent d'appréhender la vérité sont mal à l'aise de s'être écartés de lui. Cependant, Dieu accorde pareillement un cœur ouvert aux deux parties. Dieu ne désire contraindre le cœur d'aucun être, fût-ce d'une fourmi, et encore moins le cœur d'une créature supérieure, sauf lorsqu'elle accepte d'être enveloppée dans des voiles, car Dieu est le créateur de toutes choses. Si tu ouvrais le cœur d'une seule âme en l'aidant à embrasser la cause de celui que Dieu rendra manifeste, ton être intime serait rempli de l'inspiration de ce nom, Auguste. Il vous appartient donc d'accomplir cette tâche au jour de la résurrection, car la plupart des hommes sont réduits à l'impuissance, et si tu ouvrais leur cœur et dissipais leurs doutes, il leur serait permis d'entrer dans la foi de Dieu. Manifeste donc cet attribut du mieux que tu pourras au jour de celui que Dieu rendra manifeste. Car en vérité, si tu ouvres le cœur d'une personne par amour pour lui, ce sera mieux pour toi que tout acte vertueux, puisque les actes viennent après la foi en lui et la certitude en sa réalité. Chapitre 113. Interdiction de prendre part à des controverses. Veillez à considérer soigneusement les paroles de chacun, puis attachez-vous fermement aux preuves qui attestent la vérité. Si vous n'arrivez pas à découvrir la vérité dans le discours d'une personne, n'en faites pas un sujet de discorde, puisque dans le bâillant, il vous a été interdit de prendre part à des vaines disputes et controverses, afin que par bonheur, au jour de la résurrection, vous ne vous engagiez pas dans des querelles et n'entriez pas en conflit avec celui que Dieu rendra manifeste. Chapitre 114. Révéler un verset propre à émerveiller toute l'humanité. Au jour de la résurrection, quand viendra à vous celui que Dieu rendra manifeste, investi de preuves concluantes, vous considérerez sa cause comme dépourvue de vérité, alors que Dieu vous a prévenu dans le bâillant qu'aucune ressemblance n'existe entre la cause de celui que Dieu rendra manifeste et la cause des autres. Comment quelqu'un d'autre que Dieu peut-il révéler un verset propre à émerveiller toute l'humanité ? Dit, grand est Dieu, qui d'autre que celui que Dieu rendra manifeste peut réciter spontanément des versets qui émanent de son Seigneur ? Un exploit qu'aucun mortel ne peut jamais espérer accomplir ? La vérité ne peut en aucun cas être confondue avec quoi que ce soit d'autre qu'elle-même, si seulement vous réfléchissiez à ses preuves. Et l'erreur ne peut être confondue avec la vérité si vous méditez sur le témoignage de Dieu, le seul vrai. Combien nombreux sont ceux qui, dans l'islam, se sont faussement attribué une cause, et vous avez marché sur leurs traces sans avoir observé une seule preuve? Quelle justification pouvez-vous donc produire en présence de votre Seigneur si seulement vous méditez un instant? Faites bien attention durant votre nuit, de peur d'être une cause de tristesse pour une âme, que vous soyez ou non à même de découvrir en elle des preuves, afin que par bonheur, au jour de la résurrection, vous n'attristiez pas celui dans la main de qui repose toute preuve. Et quand vous ne discernez pas chez une personne le témoignage de Dieu, il n'arrivera pas en vérité à manifester le pouvoir de vérité, et Dieu suffit pour s'occuper de lui. En fait, vous ne devez pour rien au monde faire de la peine à une personne. Dieu assurément l'éprouvera et lui demandera des comptes. Il vous convient de vous accrocher au témoignage de votre propre foi et d'observer les commandements consigné dans le bâillant. Vous êtes semblable à cet homme qui arrange un verger et y plante toutes sortes d'arbres fruitiers. Lorsque l'heure se rapproche de la venue du Seigneur, vous aurez pris possession du verger en son nom, et lorsqu'il viendra en personne, vous l'empêcherez d'y entrer. En vérité, nous plantâmes l'arbre du Coran et pourvûmes son verger de toutes sortes de fruits, dont vous avez tous eu votre part. Puis, lorsque nous vîmes pour récolter ce que nous avions planté, vous avez prétendu ne pas connaître celui qui en est le Seigneur. Ne soyez pas pour nous une cause d'affliction, et ne nous tenez pas à l'écart de ce verger qui nous appartient, bien que nous soyons indépendants de tout ce que vous possédez. Du reste, nous n'accorderons cette propriété à aucun d'entre vous, ne fût-ce que dans la mesure d'un grain de moutarde. En vérité, nous sommes le calculateur. Nous avons planté le jardin du bâillant au nom de celui que Dieu rendra manifeste, et nous vous avons accordé la permission d'y vivre jusqu'au jour de sa manifestation. Ensuite, à partir du moment où sera inaugurée la cause de celui que Dieu rendra manifeste, nous vous avons interdit toutes les choses que vous teniez pour vôtres, à moins que vous ne soyez capable, avec la permission de votre Seigneur, d'en recouvrer la possession. Chapitre 115. Ils se séparèrent de Dieu comme par un voile. Ô vous à qui est donné le bâillant, soyez vigilants de peur qu'au jour de celui que Dieu rendra manifeste, alors que vous pensez rechercher le plaisir de Dieu, vous ne persistiez en réalité dans ce qui ne ferait que lui déplaire, comme le firent ceux qui vécurent au jour du premier point, et auxquels il ne vint jamais à l'esprit qu'ils cherchaient ce qui allait à l'encontre des desseins de Dieu. Ils se séparèrent de Dieu comme par un voile, et n'observèrent pas ce qu'il avait désiré qu'ils accomplissent en qualité de vrais croyants. Ils ne réfléchirent point à ceux qui vivaient au jour de Mohammed, qui pensaient de même rechercher le bon plaisir de Dieu, alors qu'en réalité, ils s'en étaient séparés pour avoir omis de s'assurer du bon plaisir de Mohammed. Néanmoins, ils ne comprirent point. Ô vous qui êtes investis du bâillant, ne vous considérez pas comme semblables aux hommes à qui furent donnés le Coran ou l'Évangile ou d'autres écritures du passé, car au moment de sa manifestation, vous vous éloignerez de Dieu encore plus qu'ils ne le firent. S'il advient que vous vous refermiez sur vous-même, il ne vous viendrait jamais à l'esprit que vous êtes séparés de lui. Il vous convient de considérer comment ceux à qui fut donné le Coran furent privés de la vérité. Car en réalité, vous agirez de la même manière, pensant que vous faites le bien. Si vous percevez combien vous êtes privé de Dieu, vous souhaiterez avoir disparu de la surface de la terre et sombré dans l'oubli. Le jour viendra où vous désirerez ardemment connaître ce qui conviendrait au bon plaisir de Dieu, mais hélas, vous ne trouverez aucun chemin jusqu'à lui. Semblable à des chameaux qui errent sans but, vous ne trouverez aucun pâturage où vous puissiez vous rassembler et vous unir en une cause à laquelle vous pouvez croire en toute certitude. À ce moment-là, Dieu fera surgir le soleil de vérité, et il fera s'enfler les océans de sa bonté et de sa grâce, alors que vous aurez fait de gouttelettes d'eau l'objet de votre désir, et vous serez privés des eaux abondantes de ces océans. Si vous entretenez quelques doutes à cet égard, considérez les hommes auxquels fut donné l'Évangile. N'ayant pas accès aux apôtres de Jésus, ils cherchèrent le plaisir du Seigneur dans leurs églises, espérant y apprendre ce qui serait agréable à Dieu, mais ils n'y trouvèrent aucun chemin menant vers lui. Puis, lorsque Dieu manifesta Mohammed comme son messager et comme le dépositaire de son bon plaisir, ils négligèrent de vivifier leurs âmes à la fontaine d'eau vive qui s'écoulait de la présence de leur Seigneur, et continuèrent à errer, éperdus sur la terre, cherchant une simple gouttelette d'eau et croyant qu'ils accomplissaient des actes vertueux. Ils se comportèrent comme se comportent à présent ceux à qui fut donné le Coran. Ô vous qui êtes investis du bâillant, vous pouvez agir de semblable manière. Prenez donc garde à ne pas vous priver d'atteindre la présence de celui qui est la manifestation de Dieu, bien que vous ayez prié jour et nuit afin de contempler son visage. Et veillez à ne pas être détourné de l'océan de son bon plaisir, alors que, perplexe et sans but, vous errez sur la terre à la recherche d'une goutte d'eau. Dit, le témoignage de Dieu a été accompli dans le bâillant, et par sa révélation, la grâce de Dieu a atteint sa plus haute perfection pour toute l'humanité. Qu'aucun d'entre vous ne dise que Dieu a retenu les effusions de sa munificence envers vous, car assurément, la divine miséricorde envers ceux à qui est donné le bâillant a été accomplie et achevée jusqu'au jour de la résurrection. Puissiez-vous croire au signe de Dieu.